Bon, vas-y.
Alors, malgré plus de 18 ans de carrière, certains de nos lecteurs, auditeurs connaissent peut-être pas le groupe.
Comment c'est possible?
Ben ouais, je sais pas. Est-ce que voilà, tu peux essayer de nous résumer, synthétiser la vie depuis les débuts?
Depuis l'âge de pierre. Bah écoute, voilà, nous on a un groupe qui s'est formé en fait en 99, mais ça c'est pour la théorie, parce que pour la pratique c'est plutôt 2000.
Je crois que Wikipédia dit 18.
Ouais, ben personne sera vraiment voilà. D'accord. On va laisser le flou, comme ça, ça va nous rajeunir. Et puis, donc à la base, on était juste un trio au départ. Guitare, basse, chant. Pas de batteur, la grande époque. Et c'était un groupe plus orienté blues, mais en fait, personne venait du blues dans ce groupe. Moi, je viens du hard rock. Hein. Le chanteur, il venait plus du punk rock, hard rock aussi. Et puis, le dénominateur commence qu'on a trouvé entre nous, c'était justement le blues. Donc voilà, ça s'est formé comme ça. On a vite enregistré un album autoproduit d'art qui s'appelait Always Drunk, Never Sad, pour t'expliquer dans l'état où on était à l'époque. Et puis voilà, on a enchaîné sur d'autres albums. Après, le groupe a bougé, et puis la formation actuelle s'est stabilisée il y a 4 ans, je pense, 4-5 ans, avec le Olivier, le batteur, et puis... Julien le bassiste, où on enregistrait. Donc on avait enregistré avant d'avoir cette formule définitive, j'espère. On avait enregistré 3 albums, donc, dont 2 chez Dixie Frog et plus un live. C'est vrai que je compte jamais le live. Et donc la dernière formation, on a enregistré l'avant-dernier album, donc Vaya Condido, avec déjà Marco Pitz à la production. Parce que nous, on était fans tous de la CDC et Power Rage, et étant notre album commun, Jean-Pierre Marielle vient de passer, était notre album de fondation en fait. Donc c'est pour ça qu'on a pris contact avec Marco Pitz.
D'accord. Alors, le nom est assez étrange. Il y a l'histoire, il y a qui est l'idée?
Bon, l'histoire, c'est... Bon, déjà, Jésus, c'est le seul mec qui était capable de transformer l'eau en vin. Si tu veux rien que ça, ça nous a parlé. On s'est dit, ce mec-là, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis les volts, parce qu'on voulait, tu vois... En fait, c'était surtout un nom qui devait péter un peu, quoi, tu vois. Et volt, ça nous convenait vachement, parce que l'énergie, et puis Jésus, ben bah, voilà. On s'est dit, tiens, tout le monde le connaît. Mais... Ça a été le début des emmerdes. Mais...
D'accord, donc comme tu disais, 2013, donc Vaya Condildo. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du groupe depuis?
Oh, bah il s'est passé pas mal de trucs. Hein. On a fait. Donc Vaya, ça a déclenché des choses parce qu'on s'est repositionné un peu en fait. On a quitté. On était perçu comme un groupe blues rock. J'ai jamais compris pourquoi. Mais
les étiquettes, c'est dur de s'en.
Ouais, il y a du blues dans ce qu'on fait, mais il y en a aussi dans Led Zeppelin, on les a pas emmerdés avec ça. Et puis on s'est repositionné un peu plus au classique rock en fait, plus qu'autre chose. Donc ça nous a ouvert un peu d'autres portes. On a fait 3 zéniths avec ZZ Top. Bon, on a fait quelques festivals, dont avec Joe Bonamassa et des choses comme ça. Et puis ça nous a repositionné pour justement. On s'était dit avec Marco Pitz qu'il fallait vraiment définir le son Jesus Volt, et c'est ce qu'on a fait avec celui-là, je pense. C'était pour ça que... C'est la première fois qu'on travaille 2 fois d'affilée avec le même producteur, ouais. Si tu veux.
Finalement, pour la plaisanterie, on disait, voilà, il y avait une étiquette, on essayait de s'en sortir. On en arrive justement à se coller des étiquettes, et en tant qu'artiste, à devoir lutter contre ça, en disant, mais écoutez, et puis après, arrêter de nous coller l'étiquette d'abord,
ouais,
a priori.
Ouais. Ça, c'est vraiment une galère, ça, par contre. Mais c'est...
Parce que tout est compartimenté, si les médias, français. Les radios, les machins. Ouais.
Et les passerelles sont pas évidentes. Les passerelles sont pas évidentes, c'est-à-dire le milieu blues, il est très conservateur en plus, donc déjà on a toujours eu des problèmes dans le milieu blues. Après t'es trop blues pour le hard rock, t'es trop hard rock pour le blues, et à la fin tu sais plus, donc là, bon, au final on s'est dit on s'en fout, et puis on va avancer, on va être Jesus Volt, et puis on va essayer de faire notre truc à nous, si tu veux, voilà quoi.
D'accord. Toujours sur la période Vaya Condildo, s'il y avait un souvenir qui synthétisait toute la période, c'est-à-dire la composition, enregistrement, promo ou tournée, etc. Il y a un souvenir en particulier qui émerge sur ces 2 ans, autour de cette période-là?
Ouais, bah c'est les concerts avec ZZ Top, parce que c'était les zéniths et c'était... c'était hallucinant parce que tu joues, tu es en ouverture de Z-Top, les gens ne viennent pas te voir, ils savent pas qui est en première partie, puis ils s'en tapent total. Et ça s'est super bien passé. Et pour nous, c'était un test aussi, on voulait voir est-ce que notre musique, elle va tenir le coup dans un truc comme le Zénith, c'est à une architecture particulière, enfin c'est un gros truc quoi. Et ouais, la première accord, ça l'a fait direct, et on a embarqué les gens, et c'était.
Il y a une vraie crainte de se dire on va se faire jeter,
ouais.
Potentiellement.
Bien sûr, il y a toujours.
Et si on se fait jeter, on va se faire jeter trois fois.
Et c'est ça que tu te dis, ouais, si ça se passe pas bien la première fois, putain, comment ça va se passer les fois d'après? Et ça s'est bien passé les trois fois.
C'est souvent les plus gros concerts que vous avez fait? Ou... Parce
En festival, c'est, ouais. C'est différent en festival. Ouais. Parce que Zénith, c'est 6-7 000 en fait, c'est ça.
Mais le festival, les gens s'attendent à ce que ça soit éclectique.
Ouais, c'est
là,
ça.
Là, je viens voir des étapes, et en plus, j'ai peut-être manqué une première partie qui ne m'intéresse pas du tout.
Mais ça peut, ouais, c'était le risque.
Soit c'est une bonne surprise, soit ça me laisse.
Et je me rappelle, au Zénith de Paris, il faisait une chaleur monstrueuse. D'ailleurs, le lendemain, on avait des climatiseurs sur scène.
Parce que même les Easy Top ont dû en souffrir. Donc on
carrément. Le matos ils avaient masque à oxygène à la sortie, tellement ils n'en pouvaient plus. Quoi. Et puis ils ont gueulé. Hein. C'est pour ça que je te dis, le lendemain, c'est
pour
là
que t'es... Ah,
ouais, clim. Et en fait, c'était hallucinant parce que t'es en première partie, tu commences et il n'y a pas tout le monde dans le Zénith. Les gens, ils étaient tellement chauds, tout le monde est au bar. Ouais. On envoie les premiers accords et je vois les portes qui s'ouvrent et je vois les gens qui commencent à rentrer, à rentrer, à rentrer, à rentrer. Et là, tu te dis, il se passe un truc, c'est cool. Quoi. Et ça l'a fait. Ça l'a fait avec le groupe, avec ZZ Top aussi, qui est... Quand tu sais que ton concert, t'as les trois quarts de ton concert, t'as Bill Gibbons qui est en train de regarder ce que tu fais, ça met la pression. Donc, pour moi, c'est un espèce de rituel de passage.
Sans dévoiler de secret, mais comment on décroche une telle première partie?
Oula.
On fait le siège de l'organisateur, mais le groupe, souvent, il a un mot à dire.
Oui, le groupe avait son mot à dire. De toute façon, c'était clair que si ça plaisait pas au groupe, on n'était pas là. Et ça s'est fait par Drouot et compagnie, quoi, en fait, par les...
Mais on sait l'info en avance, on envoie un disque au bon mec, on essaie d'identifier qui...
En fait, quand on a fait la sortie de Vaya, en fait, Drouot est venu nous au Divan du Monde, on l'a fait. Gérard Drouot est venu, en fait, et ça lui a plu, en fait, donc on est resté en contact.
Mais il est venu parce qu'il aimait le groupe ou parce qu'il s'était
dit Il est venu parce que par des contacts communs, en fait. Par notre ancien éditeur.
Ça pourrait être un groupe que après je peux repositionner.
Voilà. Ouais, carrément.
Sympa, ça.
Ouais. Bah ouais, surtout quand finalement ça a réussi à se faire, c'était chaud, ça se faisait plus, puis ça s'est fait, puis voilà, c'était génial.
D'accord.
Bon souvenir, à recommencer.
Bah ouais, je le crois bien. Donc une des grandes nouveautés de cet album éponyme, c'est donc nouveau label.
Ouais.
Donc Nota Bene Vagram.
C'est ça. Nouveau label, nouvelle distrib.
Voilà, c'est une péripétie business, c'est une progression, c'est une évolution normale pour le groupe. Enfin voilà, comment tu vois ça?
C'est tout à la fois. C'est les deux derniers albums, enfin les deux albums précédents, ils avaient été produits par notre éditeur de l'époque, en fait, qui s'est retrouvé pas pouvoir faire celui-là. Donc c'est notre bassiste qui a mis la main à la poche, en fait, qui a payé l'histoire. Et encore produit par Marco Pitz, donc. Et Marco Pitz connaissait le mec de Nota Bene. Monsieur Pinard, et ça s'est fait comme ça, en fait. Il lui a recommandé fortement le truc, il a écouté, il a dit ouais, carrément, je craque, je les veux, je les prends, et ça s'est fait comme ça, en fait. C'est une progression, ouais.
Mais parce que c'est quand même une distri qui me paraît beaucoup plus
solide,
large, ouais.
Ah ouais, ouais.
Là, on est sûr d'avoir tous ces CD, n'importe quoi, les Fnac, les machins, enfin, j'allais dire Virgin qui.
Ouais. Bah, Vagram, ouais, c'est plus gros.
Voilà, c'est plus.
Nous, c'était. Oh, après, c'était pas mal, Soka Disque, hein.
Ouais, non, bien sûr.
Ouais, c'est plus gros. Enfin, on verra après, il n'est pas encore sorti l'album, donc je ne vais pas faire de plan sur la comète, puis il y a du bois ici, je touche.
Du contreplaqué, mais d'accord, enfin c'est à vous de, enfin vous verrez les fruits qui tombent de ça, mais en tout cas c'est une étape supplémentaire positive pour le groupe.
Ouais, c'est comme ça qu'on aborde la chose en attendant et en se disant... En général, l'histoire ne repasse pas les plats deux fois, donc il ne faut pas rater.
Là aussi, sans, si tu veux répondre sans secret, Nota Bene, c'est un album ou il y a une option sur d'autres choses derrière?
Il y a option sur autre chose.
D'accord.
Ouais. Ouais.
Okay. Donc ça peut être une histoire un peu plus longue.
Un peu plus longue.
Okay.
Sauf si, évidemment, un énorme label nous tombe dessus.
Oui, si Universal veut vous signer, bon, en
voilà, fait, mais discuter, mais... c'est pas si plus intéressant ça, cela dit, de travailler qu'un, avec Universal.
Vous mettez un label un peu plus petit qui bosse le groupe qu'un.
Quelqu'un qui est motivé.
Machin, où on est complètement noyé dans la masse, quoi.
Complètement, et le mec, s'il croit en toi et qu'il est motivé, il travaillera mieux que Universal qui en a rien à foutre de toi parce que t'es le produit, t'es le 50e qu'ils ont à caser ce mois-ci, si tu veux, et donc ils ont rien à faire. Donc, ouais, non, parfait. Bonne alchimie, bon entourage.
Qu'est-ce qu'en général tu peux nous dire des sessions d'enregistrement de cet album et est-ce que ça a été différent par rapport à Vaya Condito?
Alors, ce qui est différent, c'est qu'on se connaissait avec Marco Pitz et Peter Dimmel, qu'on connaissait déjà le studio, mais surtout qu'on a pu aller plus loin en fait, en termes de production et de pré-production et de travail sur les morceaux. Là, Marco Pitz s'est complètement investi, mais il est estampillé Marco Pitz celui-là complètement. On a pu beaucoup travailler, comme il n'y avait plus ces problèmes d'ego. T'as un mec qui arrive d'Australie, qui se retrouve avec 4 Français dans la campagne française, tu sais pas ce qu'il peut en sortir, ça se trouve c'est 4 connards qui vont te pourrir la vie pendant un mois, tu sais pas où tu vas aller. Il s'est trouvé que ça s'est super bien passé, et humainement et professionnellement, donc là ce coup-ci, cette étape-là elle était passée. Donc on pouvait directement aller à l'os, à l'essentiel, c'est-à-dire les morceaux. Là il voulait définir le son du groupe. Pour lui, le son du groupe, il avait jamais été réellement défini tel que lui l'entendait. Donc c'était l'album pour définir le son du groupe. Donc on a charclé dans les structures. On arrivait, on avait 16 morceaux, il y en a que 10 à la fin. Donc tu t'imagines qu'on a... Il y a eu du laisser de côté. Dans le morceau, tout se réduit à l'essentiel. C'est-à-dire il n'y a pas de morceaux...
Toutes les fioritures, tous les machins, toute la
tout ce qui ne sert à rien, ça dégage. C'était pas été simple, hein, parce qu'au niveau de l'ego, justement... T'arrives, tu te dis, t'es un artiste, quoi. Quelque part, je mets plein de guillemets artiste, hein, toujours. T'arrives, t'as quand même fait tes. Il y a des morceaux, ça fait 2 ans que t'es dessus, si tu veux. Et d'un seul coup, tu lui enlèves une jambe, tu lui enlèves l'autre, tu lui remets un autre truc à la place et tout. Il faut être capable de l'entendre, ouais. Il faut l'encaisser, quoi. Bon, à partir du moment où tu fais traverser la moitié de la planète à un mec pour qu'il vienne produire ton album, c'est que tu as confiance en lui. Et que s'il te dit quelque chose, tu penses qu'il le dit avec raison. Donc il n'y avait pas de problème, on a suivi, mais il y a eu 2 jours, je ne te mens pas, 2 bonnes journées où tu es un peu t'es paumé. Tu sais plus où est le nord, le sud, le dessus, le bas. On te dit va là, tu vas là, mais tu sais pas où tu vas. Et après la lumière se fait, et puis de toute façon, le mec, on parle, j'entends vision là-bas, mais c'est exactement ça, il a une vision de ton groupe, et il a le recul nécessaire, il a le métier nécessaire, il a le goût. Et on a été à l'essentiel des choses. Il voulait un album avec des chansons. Il voulait pas un album. Des fois, tu es un peu autocomplaisant quand tu fais les choses, tu te laisses un peu aller. Un solo d'un quart d'heure et puis un machin qui sert pas à grand chose, si tu veux. Bah là, à l'essentiel en fait. Donc,
lui, il a le regard extérieur. Et il
voulait efficace, la quintessence de ce que tu peux être. Bon, on l'a fait. Donc on a prévu de faire une trilogie avec lui, hein, donc le prochain album, il sera différent, je pense.
Alors là, je veux pas faire, essayer de trouver des symboles où il n'y en a pas, mais l'album est éponyme, donc on met le groupe en avant, c'est le groupe d'abord,
oui.
Il y a un changement de design de logo,
oui.
Du groupe, est-ce à dire que c'est vu du groupe, hein, c'est pas un nouveau démarrage, mais le début de nouvelle ère.
Oui. En fait, pour être tout à fait honnête, elle a commencé avec l'album précédent, cette nouvelle ère. C'est nouveau. On n'est plus du tout le même groupe qu'à l'origine. Le batteur a changé, le bassiste a changé. Ça fait deux albums où on a le même line-up, donc c'est super. Je pense que c'est le line-up définitif. Tout au moins, je ne sais même pas que je pense, je suis sûr que c'est le line-up définitif. Ouais, nouvelle ère. Orientation un peu différente de ce qu'on avait à nos débuts. On se retrouve tous dedans, tous avoir envie d'aller dans le même sens, ce qui est important. Et nouvelle ère, j'en sais rien, j'espère qu'elle va être longue, notamment.
Mais par exemple, sur la symbolique de dire, on voit bien que le groupe aime travailler, s'amuser sur des titres, un peu, voilà, jouer sur des mots, etc. Et donc là, on en arrive à dire, finalement, on va pas se casser la tête sur la pochette, c'est on remet le nom du groupe,
ouais.
Et on donne pas de nom, si ce n'est
Et le nom éponyme, ouais.
Voilà, voilà, on rappelle, c'est nous. Quoi. Et en plus, il y a un petit travail de modernisation du logo.
C'est exactement ça.
Oh, ouais. C'est sans plus que ça. Inconsciemment, il n'y a pas de. Pas à faire table rase du passé, mais on arrive à autre chose.
Si, si, mais bien sûr qu'il y a de ça. Oui, évidemment, il y a de ça. Ouais. Il y a de ça, il y a. Nouveau départ, c'est ça en fait. Ouais. Nouveau label, nouvel entourage.
On aurait pu penser que finalement cette démarche-là était dû être faite sur déjà le précédent.
Oui, mais nous on fait pas tout comme tout le monde, tu vois. Bah tu vois, regarde, par exemple, tu vois Spinal Tap, ils ont fait toutes les erreurs possibles, ils en ont fait un film. Nous on en a fait une série, si tu veux. Nous, si tu prends un bottin de A à Z, toutes les erreurs on les a faites. Donc il y a un moment où tu te dis qu'il faut arrêter, on va reprendre un nouveau départ et puis voilà, c'est ça. On repart dans ce sens-là, je pense.
Parce que malgré toutes les erreurs, on va prendre les 15 ans de carrière, grosso modo. 5 albums, plus un live.
Ouais.
Une belle moyenne, enfin 2-3 ans, un disque.
Pour des mecs qui font autant d'erreurs, ouais, c'est pas mal.
Ouais, non, l'époque des grands groupes, je sais pas, des British Blackmore qui sortaient un machin tous les 6 mois, c'est fini, quoi.
Non, ouais, les années 70, c'est loin derrière, et à cette époque-là, ils étaient ultra créatifs, et les albums en même temps.
Il y avait un peu à boire et manger, quand même.
Ouais, tout n'est pas forcément très bien.
C'est-à-dire
que quand tu fais un album sous les 6 mois, il faut vraiment être balèze pour faire. Mais cela dit, ils l'ont fait. Hein, quand tu vois, en parlant de Richie Blackmore, tu vois Machine Head. Tu vois, In Rock, Machine Head. C'est énorme. Enfin, tu vois. Les mecs, ils ont un peu défini ce qu'était le hard rock quand même à cette époque-là. Après, il y a eu les années 80 où ça vendait beaucoup d'albums, donc ils ont commencé à espacer un peu les sorties. Bon, nous, on aurait bien voulu en faire un peu plus. Entre In Stereo, qui était le troisième album, et Vaya Candido, il y a eu 7 ans qui se sont passés quand même. C'était long. Bon, il a fallu redéfinir des choses en groupe et repartir. Là, il n'y a que 3 ans. C'est une bonne moyenne. On espère.
Il y a déjà les premiers prémices de la suite, peut dire 2-3 ans, mais moi, même potentiellement 2 ans.
Moi, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi écrire.
Il y a des montagnes de trucs, dans le téléphone,
ouais.
Des mélodies.
Ouais. J'ai de quoi faire 3 ou 4 albums.
D'accord.
Dans 4 styles différents, je pense.
Okay. Tu vois. Le Mark Opitz, là, est-ce que on peut penser que c'est un producteur à l'anglo-saxonne, donc justement qui n'est pas juste un mec qui pousse 3 boutons pour l'instrument et puis pour avoir un son potable. C'est un mec qui.
Surtout qu'il n'a pas poussé un bouton là.
Qui façonne le groupe. Et d'ailleurs, il y a certains groupes qui, sur certains mecs, qui sont fait bouffer par leur producteur.
Par leur producteur, ouais.
Et comment alors est-ce qu'il est un peu comme ça? Enfin, qu'il impose son style.
Il est à l'anglo-saxonne. Oui. Il impose sa vision. Enfin, il impose. Il te la propose. Et toi, ça te convient ou pas?
Comment le groupe se peut définir par rapport à lui? Parce que si au bout de 3 jours on dit bah non, c'est pas du tout ça qu'on veut, il dit bah écoute, moi je rentre chez moi, salut quoi.
Bah on avait déjà fait un album avec lui, si tu veux, donc on savait à peu près qu'on allait. On savait d'où on partait tout au moins, on savait pas exactement où on allait aller, mais on savait qu'on avait une vision commune des choses. Il a un parcours. Au départ on l'a pris parce que c'était l'ingé son de Power Edge, si tu veux, en même temps il était aussi le producteur de In Excess, il a fait The Angels, il a fait Cold Chisel, il a
Kiss.
Donc c'est que des trucs qui me parlent, moi, tout ça, si tu veux. Donc je savais qu'on n'allait pas partir du côté de Rick Azaray, si tu veux. Donc c'était, il n'y avait pas de risque de se retrouver avec la nouvelle Céline Dion et de faire la nouvelle star l'année prochaine, quoi. Donc après, il propose des choses et on parle, hein. On parle avant. Hein.
Et c'est un mec qu'on peut lui dire, ok, je comprends ce qu'on veut, mais non.
Ouais.
Ouais, ça.
Il te le dit. Lui, son truc, c'est, écoute, moi, je dis quelque chose, mais si ça ne te convient pas, au final, n'oublie pas que c'est ton album. Donc c'est toi qui a le final say ou final word, comme ils disent les Anglais, t'as le mot final. Donc si ça te plaît pas, tu dis stop et on arrête. Enfin, c'est pas qu'on arrête là, mais on part ailleurs. Et là on avait confiance, donc quand on a vu où on allait, on a commencé à comprendre ce que ça allait devenir, on s'est dit non, ça tombe bien, c'est là où on veut aller justement. Définir le son du groupe, lui il a défini le son d'In Excess, le son de The Angels, si tu veux. Voilà quoi. Tu peux lui faire confiance un peu.
Et sur les 6 titres que vous avez donc écartés,
ouais.
C'est poubelle ou ça
non.
Peut servir? Il y a des morceaux ou des primes?
Il
ouais.
Y a 2-3, c'est de poubelle, c'est clair. Parce que tu peux te tromper aussi des fois. Et il y en a, non, en fait on les a pas fait parce que c'est une question de temps aussi. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Comme on a beaucoup travaillé sur les morceaux qu'il y avait, qu'il y a eu beaucoup d'élagages, beaucoup de réécriture, même dans les paroles. Hein. Musique, paroles, on a beaucoup retravaillé dessus. Il y en a 3-4 qui, non, c'est pas qu'il lui plaisait pas, il trouvait qu'il y avait pour les pour les faire vraiment les rendre sur le plus bel aspect, si tu veux, les fignoler au maximum, il aurait fallu plus de temps que ça, et on n'avait pas ce temps-là, en fait, voilà. D'accord. Déjà, on a pris pas mal de temps, je trouve. Donc, ça sera pour le prochain, probablement, et après, peut-être qu'il y en a qui seront abandonnés, mais... Non, je crois qu'il y a de quoi... Dont un titre, il y en a deux même. C'est sûr, non, même, c'est même pas sûr qu'on va pas continuer à la jouer sur scène, en fait.
D'accord.
Dans un deuxième temps, parce que là, on est plus axé sur cet album, en fait.
Ok. Finalement, le process de création typique dans le groupe, c'est quoi ? Comment on a une chanson typiquement pour Gisvolt ?
Oula, c'est...
C'est toujours un peu le même process, ça part un peu...
En fait, on part souvent de la musique, voilà, si tu veux.
Un riff.
Zav écrit, il écrit dans un deuxième temps, en fait. Ouais, un riff, une progression. J'arrive souvent avec des riffs, avec des progressions, en fait. Après, on voit ça ensemble. Je bosse beaucoup avec Julien, avec le bassiste, en fait. Où on passe du temps dessus, faire évoluer le truc. Et après, on voit ça en répète après à 4. Hein. Xav a écrit les paroles dessus, et puis ça revient, ça repart, c'est comme ça, en fait. Des fois, il y a des trucs, particulièrement sur celui-là, où les paroles sont arrivées plus de 6 mois après qu'on ait travaillé sur quelque chose, si tu veux. Le truc, c'est à part sur un morceau, on est parti des paroles et de sa mélodie, en fait. Le restant, ça part. C'est souvent un peu la même progression. C'est un peu un groupe à guitare. C'est un groupe de rock. Donc, ça part forcément d'un truc, tu vois, qui écrit pas les paroles de Smoke on the Water et puis après, tu mets le riff dessus.
Enfin, non,
tu
vois, c'est plutôt l'inverse.
Tu fais l'inverse, quoi. Donc, voilà, ça fait un peu ça aussi, quoi.
D'accord. Alors, toi, personnellement, ou le groupe en général, on doit être à quoi 10 jours de la sortie du disque.
Ouais.
C'est comme ça. Comment on 26. Sent Il y a un stress particulier ou au bout, quand c'est 5e, non
Stress. Enfin, c'est pas ça, c'est une impression, ouais, appréhension, ouais. Ouais, puis t'as cette envie que ça sorte, t'as cette envie que ça plaise, en espérant que ça plaise, t'as cette peur que ça plaise pas, évidemment.
Au cinquième album, on sait qu'on peut, on peut encore se vautrer complètement.
Évidemment, bien sûr.
Même s'il y a Marc Machin qui a.
C'est pas une garantie. On va pas.
Non, enfin, pas une garantie, c'est pas de devenir disque de platine, mais.
Oui,
de,
je me doute.
Enfin, j'en le souhaite. Mais de. Que comment dirais-je, le. La base, fan du groupe est là, enfin la base d'amateurs est là, pas de raison, vu la qualité atteinte, que ça ne grandit pas encore plus.
On espère juste que ça va, que ça va grandir un peu plus. Et puis, non, mais tu as toujours le risque de... Tu sais, tu as toujours les mecs qui te suivent depuis super longtemps, et puis, celui-là, ça me déçoit parce que tu as changé un peu de direction. Tu as les gens qui vont te reprocher de changer de direction, et puis tu as les gens qui trouvent que tu vas toujours dans le même sens. Tu vois, à CDC, ça fait 40 ans qu'on leur reproche de faire le même album, et si tu écoutes et que tu es fan d'ACDC comme moi, ils n'ont pas fait deux fois le même album. Donc après, voilà, tu peux toujours décevoir des gens. Le marché du disque, on ne peut pas dire qu'il soit très florissant en ce moment, donc si tu veux, on en est à un moment de l'histoire où tu fais un peu des disques pour pouvoir tourner surtout derrière, mais... Mais nous, en fait, on est super fiers de ça parce que c'est un produit qu'on va. On est content de A à Z, que ça soit de la musique jusqu'à la pochette, on est content de ce que c'est, quoi. Tu repars. C'est à la chaîne, mon gars.
Alors, justement, tu parlais du live, je regardais les dates annoncées. Il y a des trucs en France, bien sûr, et en Allemagne.
Ouais.
Il y a 4 ou 5 dates déjà pour.
Il y a 6 dates en Allemagne déjà. Ouais.
L'Allemagne, c'est un marché plus.
C'est plus rock que la France.
Enfin, plus favorable pour vous ? Vous avez l'habitude d'y tourner ?
On a l'habitude d'y tourner. Après, plus favorable, je sais pas, parce c'est un marché qu'on a à peine écorné encore. Enfin, quand je dis marché, ça fait un peu rire. Hein. Mais c'est un territoire.
Un territoire, voilà. Où se faire connaître du public déjà.
Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus rock que la France, l'Allemagne. Tu vas dire radio allemande et passe du rock. En France, tu aimerais bien que ça arrive. Radio, tu vois, mainstream, comme on dit. Le public est plus rock, plus blues, et il sort plus. Enfin, puis c'est plus grand. Il y a plus de monde. C'est un territoire que je conseille à tous les groupes qui ont envie de sortir de France.
Vous avez l'habitude vous avez pris l'habitude maintenant d'un peu le tester, de vous faire connaître en Allemagne.
Ouais,
c'est la première fois que tu as mentionné pas mal de dates.
On a déjà fait plusieurs fois 15 jours là-bas, quoi. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on fait ça. On avait fait le Rock Palast là-bas avec Joe Bonamassa en 2005. Et Oh non, il y a un bouton qu'on tourne là-bas. Après, voilà, on aimerait bien tourner plus. On aimerait bien, tu vois, que ça s'équilibre sur toute l'Europe. On a fait pas mal la Hollande aussi. Il y a un bout de temps qu'on n'y est pas retourné. Il y a pas mal de gens qui nous demandent de revenir. Mais après, il faut réussir. Après, c'est des histoires de bise. Hein. C'est, faut trouver le bon tourneur. Enfin, c'est pas. T'as les problèmes que t'as en France, t'as les mêmes là-bas. Enfin, quand t'as des problèmes dans un pays et que t'élargis, bah, t'as les mêmes dans tous les pays. Après.
D'accord. Justement, en contact des Easy Top ou de Bonamassa, est-ce que vous, en tant que groupe, allez voir dans les coulisses, enfin, les voir agir ou sur scène, on apprend des choses. Il y a un groupe particulier qui t'ont marqué.
Bonamassa, c'est impressionnant. C'est un mec, c'est un bosseur. C'est un mec, il a tout le temps une guitare dans la main, de toute façon.
Donc, c'est... Il a une technique, mais on sait d'où ça vient. Quoi.
Il travaille énormément. Enfin, ouais, c'est... De toute façon, ça vient pas par miracle. Hein. Les mecs qui te disent « Ouais, je me suis réveillé un matin, je jouais de la guitare. Et... » C'est quoi ton prénom ? C'est Yngwie.
Yngwie, oui, voilà. Ouais.
Oui, oui, bien sûr, ils bossent comme des dingues. C'est des mecs qui bossent 12 heures par jour la guitare. Ils ont pas l'impression de bosser parce que c'est un kiff complet. Bonamassa, c'est un passionné de guitare. C'est un mec, il gagne de l'argent, mais il redépense tout dedans, je crois. Tu vois, c'est... Oui. Et une oreille, enfin, le voir en balance, c'est impressionnant. Enfin, tu vois, le mec... Et puis voir Billy Gibbons, c'est une légende, Billy Gibbons, tu vois, c'est en plus gentil. C'est les mecs qui sont professionnels, mais ils sont, ils n'ont pas la grosse tête, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça.
Ils pourraient, hein, les éditeurs,
ils ont connu une légende. Ouais. C'est énorme ce qu'ils ont connu, ces mecs-là, si tu veux. Bah non. Le mec, il est terre à terre, cool, gentil, prévenant, agréable, rien à dire.
Okay.
Si c'est ça être une star, je veux bien en être une et puis je veux bien fréquenter que ça. Si
d'accord. On a des petites questions pour les artistes qu'on interviewe juste pour mieux les connaître. Des petites questions, enfin pas légères, mais sur tous les sujets. Chanson préférée tous les temps.
Ah, oh putain.
C'est toujours difficile, mais ouais. Une, on essaye.
Je sais pas, j'hésite entre Back in Black et puis Burn de Deep Purple.
D'accord.
Bon, je veux dire Burn.
Premier album rock, tu te souviens avoir acheté ?
Made in Japan.
Le dernier que qui t'est capté l'oreille ?
Le dernier, ça doit être... Oula, putain, c'est quoi ? Le dernier que j'ai chopé, ça doit être Vintage Trouble, le dernier. Et... ah non, même pas. The Temperance Movement, le dernier. Parce que du coup, on a été les voir, c'était vraiment cool, quoi.
Est-ce qu'il y a eu une chanson, un clip, un concert qui a allumé l'étincelle artistique ?
Le premier groupe que j'ai vu sur scène, c'était Status Quo. J'étais gamin de chez gamin de chez gamin. Je sais pas ce qui a allumé l'étincelle. Je crois que c'est
pourquoi j'ai pris un instrument, pourquoi j'ai
à cause de Ritchie Blackmore. Moi, j'ai joué de la guitare parce que je voulais être Ritchie Blackmore. Après, je me suis rendu compte que c'était un con, mais je me dis c'était pas grave.
Au moins, j'ai démarré.
Au moins, j'ai commencé. J'adore le gars. Hein. Je rigole. Ouais, j'adore.
Le titre de Jesus Walk que tu aimes pas du tout. Mais enfin voilà, celui que t'aimes le moins. Si on a un en particulier, si on peut l'oublier, c'est pas grave.
Ouais. Oh, mais il y en a plein du coup. Dans les deux derniers, il y en a pas en fait. Putain, je sais pas du tout en fait. Là, tu me prends de court du coup. Puis du coup, en plus j'ai un problème. Je ne me rappelle jamais du nom de mes chansons. J'imprime pas sur les titres, c'est terrible. Dans les vieux albums, ouais, mais on les joue plus, donc voilà, il n'y a plus de problème.
D'accord. Chanson que tu aurais adoré avoir composée.
Oh putain, il y en a plein aussi. Hein. J'aurais aimé écrire Burn aussi, parce que en fait, quand j'ai entendu ce morceau, il y avait tout ce que j'aimais dedans. C'est le premier solo vraiment un peu néo-classique, si tu peux dire, et j'adore. Moi, mes parents écoutaient du classique, donc le mélange des deux se fait naturellement. Le riff est monstrueux. L'imagerie du morceau, j'aurais adoré écrire ce morceau-là. Ouais. Mais il y en a plein d'autres, hein, putain. Enter Sandman de ces enfoirés. Je sais pas, Bohemian Rhapsody dans les vieux trucs.
Parce que finalement, beaucoup considèrent que tout ce qu'on fait là, c'est tout ce qu'on fait depuis, je sais pas, les années 70, c'est du recyclage, tout a été fait.
Ouais.
Connerie ou réalité ?
T'as 12 notes dans la gamme, tu sais, les formules pour les mélanger dans tous les sens, gamme pentatonique, c'est pire, on a plus que 5, tu vois. Tout a été fait, puis mais tout est à faire en même temps, tout est à écrire encore.
Mais c'est bien ou c'est effrayant qu'il y ait un espèce de revival tous les 25 ans, on redécouvre les machins?
Je trouve ça... Ouais, je peux pas dire que c'est effrayant, je trouve ça bien, ça redonne, ça réinjecte à chaque fois du sang neuf. T'as le rock'n'roll, il est arrivé, les années 60, 70 sont arrivés avec le hard rock, le punk à la fin, le grunge qui remet. À chaque fois, il y a un truc nouveau. Là, il y a une nouvelle scène, la Rival Sons, Temperance Movement, tous ces trucs-là. Ça me va, moi.
Et pour finir, si t'avais l'album que tu conseilles de 2015?
De 2015?
Ouais. Ou, enfin, voilà, le. 2016, si t'as déjà, mais comme on est mi-février.
Du coup, 2015, qu'est-ce que c'est qui m'a fait kiffer à moi en 2015? C'est un bon piège, ça, encore, tiens. Bah, le premier Temperance Movement, que j'ai trouvé c'est super bien. Putain, moi, j'écoute que des vieux trucs en 2015, je suis retombé sur tous mes Pantera, pour te dire, donc...
Ça peut être une réédition, hein, d'un Pantera, ou se remettre à...
Vulgar Display of Madness.
Ok, bah, voilà. Nickel, ça me va. C'est pas cool.